cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 15 mars 1994.
Quelques questions d'éthique face à la souffrance d'une personne ou la mort. Je suis mal à l'aise. Ce comportement est-il passionnel? Ce malaise est-il inscrit dans la nature de l'homme? Ça dépend. Si ce comportement vous empêche de réfléchir, il est passionnel. Ça arrive, il y a des gens qui perdent la tête. Et complètement incapables de combattir. Combattir est un acte humain. Donc qui relève de l'intelligence et de la volonté. Et en face d'une personne qui souffre ou combattit, se durcir à la manière stoïcienne n'est pas humain. Et devenir une pleureuse à la manière des pleureuses n'est pas humain. C'est liturgique.
Politique n'a-t-elle pas un double fondement, l'amour d'amitié
L'Église nous éclaire. L'amour de l'époux et de l'épouse dans le mariage inclut le point de vue de la procréation. Oui, donc c'est pas deux fondements, c'est un seul. Un seul fondement. L'amour de l'époux et de l'épouse, c'est pas n'importe quelle amitié. Oui, c'est justement les erreurs d'aujourd'hui, c'est qu'on croit que n'importe quelle amitié, peu importe, forme un couple. Mais non. Le couple, c'est l'époux et l'épouse qui s'aiment et qui s'aiment d'un amour d'amitié. Et cet amour d'amitié n'exclut pas la procréation. Il l'implique. Donc il n'y a qu'un seul fondement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un fondement, l'amour d'amitié, qui, lui, normalement, s'achève dans le point de vue de la procréation. On se marie par amour de l'un et de l'autre, et cet amour implique la procréation. On ne se marie pas à cause de la procréation, en séparant les deux. Je l'aime pas, mais je veux avoir à tout prix un enfant. Ça existe, quelquefois. C'est catastrophique. Et donc on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Il y a un lien essentiel entre les deux. Et le point de vue de la procréation implique l'éducation. Donc il y a trois moments, si vous voulez. Je peux analyser trois moments, mais ce n'est pas trois fondements. Le fondement est toujours existentiel. Ce n'est pas un principe, le fondement. C'est une réalité existante. Alors cette réalité existante, l'amour de l'époux et de l'épouse comme fondement de l'aspect politique, implique le point de vue de la procréation et implique l'éducation. Et c'est le même fondement. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas dire que le fondement politique, c'est l'amitié entre les citoyens. Une amitié entre les citoyens. Et c'est là l'erreur complète de cette loi d'aujourd'hui. Elle est antinaturelle.
Voyez comment.
la suppression des batteries et dire on va avoir maintenant une politique mondiale. L'international va enfin arriver. Tu vois. Alors, est-ce que c'est naturel? Intéressant de se poser la question. Est-ce que la patrie est naturelle? Est-ce que l'international est-elle l'évolution normale pour conduire à ça? Vous voyez, c'est le raisonnement de ceux qui disent que le couple, ce n'est plus l'homme et la femme, avec la procréation et l'éducation. C'est l'évolution. C'est le raisonnement qu'ils donnent. Il y a des sénateurs et des députés profondément chrétiens, du moins dans la pratique chrétienne, qui disent que c'est normal. On est à l'âge de ça. Alors, c'est intéressant de voir comment ils arrivent à ça. Comment l'intelligence pratique peut devenir, peut s'obscurcir jusqu'à ce point. Et pour eux, c'est pas évident. Alors, où y a-t-il l'obstacle? Vous voyez? Parce que on fait la philosophie pour nous, pour être dans la vérité, pour la recherche de la vérité. Mais on doit aussi, si on est apôtre, si on est chrétien, tout chrétien est apôtre, tout chrétien est témoin. Donc, si on est chrétien et qu'on fait de la philosophie, on doit pouvoir éclairer les erreurs. Éclairer les erreurs, c'est de situer à quel endroit il y a eu un blocage. Vous savez bien, si on est chrétien, on sait que la tactique du démon, c'est de séparer ce que Dieu a uni et d'unir ce que Dieu a séparé. C'est très simple, ça c'est le grand principe. Toute la stratégie du démon, elle est là. C'est une stratégie anti. Le démon n'a rien de positif. Il est toujours anti. Donc, c'est très simple. Tout ce que Dieu a uni, on le sépare. Tout ce qui est séparé par Dieu, on l'unit. Et ça explique des tas de choses. Vous voyez, mais la politique du démon ne se comprend qu'en fonction de ce que le Christ lui a établi. Donc, qu'en fonction d'une éthique chrétienne, d'une théologie morale. C'est très net, hein. Et c'est ça qui est intéressant à voir, du reste, hein. C'est pour ça, pour comprendre, hein, l'encyclique du pape, il faut regarder le point de vue philosophique. Mais plus que ça, il faut regarder aussi la stratégie du démon. Et c'est la stratégie du démon qui fait comprendre, je crois la plupart du temps, ce qu'il y a de tout à fait formel. Évidemment, si on ne croit plus au démon, on ne comprend plus rien. Alors, vouloir supprimer ce qu'il y a d'original dans l'union de l'homme et de la femme, dans l'amitié de l'homme et de la femme, au point du mariage, c'est, je crois, aller directement contre la révélation de l'Ancien Testament et surtout du Nouveau Testament, puisque Jésus dit qu'il reprend ce qu'il y a de tout à fait premier et que si Moïse a établi, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Et l'évangile reprend l'aspect naturel du couple. Et la destruction du couple ne peut regarder le couple de l'homme et de la femme dans le mariage comme étant ce qui fonde l'aspect politique. C'est d'aller contre. Et le philosophe peut, lui, à sa manière, différemment, non plus en faisant appel à la révélation, mais tout simplement en faisant appel à la nature humaine. Alors, il faut bien comprendre que le point de vue politique, vous voyez, le point de vue de la immédiatement naturelle. Elle implique l'intervention de l'homme. Vous voyez, qui établit des lois. Il n'y a que la loi divine qui est le fondement direct de la loi, du point de vue naturel. La loi positive de l'homme n'implique, n'est pas directement l'aspect de la nature. Il y a quelque chose de différent, c'est que l'homme intervient pour former une communauté à l'égard d'un bien commun qui n'est plus le bien naturel, mais qui est le bene vivere. Et le bene vivere implique quelque chose de plus que l'aspect naturel. Mais il y a un fondement naturel. Oui, c'est un très point de vue très délicat. Et intéressant du reste. Bon, alors nous allons essayer de continuer un peu cette réflexion au point de vue politique. Et c'est très important pour nous aujourd'hui. Surtout ce que nous essayons de comprendre, c'est-à-dire de voir le fondement naturel de la communauté politique, c'est la famille. Ce que l'Église affirme. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous devons essayer de comprendre comment le point de vue de l'éthique personnelle implique l'amitié. Dans cette éthique personnelle, il y a un type d'amitié tout à fait particulier qui est l'amitié de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse. Et cet amour d'amitié de l'époux et de l'épouse est en vue de la procréation, en vue de l'éducation. Et ceci, c'est naturel. Et on doit, au plan philosophique, justifier que cet amour de l'époux et de l'épouse en vue de la procréation a quelque chose d'original et de sui generis, donc d'unique. Et que c'est vraiment cela qui est le fondement de l'État. Et non pas n'importe quelle amitié. Alors, je crois que là, il y a un point très important à saisir pour nous, qui n'est pas toujours commode à faire comprendre, mais qui est quand même très important pour nous point de vue de l'amour de l'homme et de la femme en vue de la procréation. Et au point de vue chrétien, il y a un sacrement. Dieu se porte garant de cette union de l'homme et de la femme. Ce qui est très beau parce que ça montre que Dieu se porte garant de la famille. Et Dieu se porte en garant de la famille. La famille n'est plus seulement un bien naturel, humain, mais la famille a quelque chose de religieux, de sacré, de divin, de chrétien. Et si la famille est fondement de la communauté politique, il y a donc un regard de Dieu sur la communauté politique. L'adoption, je veux dire, la procréation. peux le dire qu'au point de vue théologique, hein. Je peux pas le dire au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je dois regarder les choses, comme on dit aujourd'hui, dans une objectivité non passionnelle et non religieuse. Oui. Et ça, je crois que c'est un problème très important pour nous. La procréation entraîne l'éducation. N'y a-t-il pas un droit naturel à l'éducation ? Voyez, quand je suis dans une perspective de socialisation parfaite, la philosophie d'une socialisation parfaite qui fait que l'éducation, dès le point de départ, relève de l'État. Les kibbutz en Israël, au point de départ, étaient très nets. J'ai pu les visiter à ce moment-là, et je l'ai vu de mes propres yeux. Les kibbutz religieux, comme on les appelait, les kibbutz donc qui allaient jusqu'au bout, étaient socialisants jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on retirait l'enfant aux parents. Ils étaient éduqués par des infirmières d'État. Et on les remettait à la mer 2 heures, je crois, par jour. Mais jamais la nuit. Le soir, quand la mère avait travaillé, elle pouvait avoir son enfant pendant 2 heures. Oui, on a changé. Maintenant, on n'enlève plus les enfants aux parents. On laisse l'éducation familiale. Et on reprend les enfants à 14 ans. Quand le duel commence entre les enfants et les parents, que le garçon à 14 ans veut prendre la place du père, la fille à 14 ans veut prendre la place de la mère. Alors, pour éviter ces luttes familiales, on les prend. Alors j'ai dit, mais pourquoi on a fait ça? Ah, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'irremplaçable, l'amour de la mère pour l'enfant. C'était irremplaçable. Et donc, les enfants s'éveillaient plus tardivement à l'intelligence. Ils avaient une intelligence retardée. Donc c'était ennuyeux, on perdait du temps. Donc au point de vue efficacité, c'est gênant. Textuellement, il me dit ça. Ah, je dis, ah très bien, j'ai simplement dit en riant, on aurait pu le prévoir. Alors l'autre a répondu, oui, on aurait pu le prévoir, on a perdu du temps. Et je lui dis, dans 10 ans, je reviendrai, et je verrai si il faut les retirer à 14 ans. Il m'a dit, je ne serai plus là pour vous le dire, mais je comprends très bien ce que vous dites. C'était très sympathique, venez, de voir comment on veut faire des essais, mais a-t-on le droit de faire ça? A-t-on le droit d'oublier le point de vue naturel, de le remplacer par une idéologie socialiste? Et l'idéologie socialiste, qu'est-ce qui paie ça? Mais c'est les enfants. Mais dans un monde où l'idéologie socialiste est plus forte que la nature, ce sont les enfants qui paient toutes les conséquences. L'idéologie socialiste ne va pas jusque-là dans notre vieille Europe. Mais un peuple qui prenait regret tout jusqu'à la langue, je comprends très bien que les idées socialistes allaient jusqu'au bout. Alors vous voyez, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, parce que ça, c'est un fait. Que de fait, on est obligé de reconnaître que l'éducation familiale des parents a quelque chose d'unique. Il y aurait l'antithèse aussi à prendre. Ça, c'était un freudien à Neuchâtel, plus freudien que Freud, et qui se disait plus freudien que Freud, comme les royalistes se disent plus royalistes que le roi. Et ce freudien, tout près de Neuchâtel, voulait à tout prix supprimer le lien de la mère à l'égard de l'enfant, en disant que ce lien, pour lui, dans sa perspective, arrêtait l'éducation d'enfant à cause de la mère captative. Et donc, ça restait. Donc, à cause, vous voyez, de certaines erreurs ou de certains abus de la mère captative, il voulait supprimer le lien affectif de la mère à l'égard de l'enfant. Donc, faire de tous les enfants des orphelins. Et il mettait tout ce qu'il gagnait comme argent pour ancienne pour supprimer le point de vue des parents, supprimer la nature. Et c'est quand même très significatif, ce chose-là, vous voyez. Alors, je crois qu'on doit comprendre, au plan philosophique, qu'il y a quelque chose de fondamental que l'homme ne peut pas remplacer et qu'il essaie par tous les moyens. Aujourd'hui, avec, ça va très loin, avec les mères porteuses. Supprimer ce lien naturel de la mère et d'enfant dans l'éducation et dans l'éveil du cœur, l'éveil affectif. On ne regarde plus que l'éducation que comme une instruction. On ramène l'éducation uniquement à l'éveil de l'intelligence, à l'instruction. On oublie que au-delà de l'instruction, il y a l'éducation du cœur. Et ça, les psychologues le savent. Et s'ils se taisent devant les idéologies freudiennes et les idéologies socialistes. Parce qu'on sait très bien que lorsque le cœur, c'est-à-dire l'affectivité, n'est pas éveillé, l'intelligence ne s'éveille pas. Il y a premièrement l'éveil du cœur qui est première, qui est fondamentale, et à l'intérieur de cela, l'éveil de l'intelligence. Et je crois que c'est ça qu'on doit comprendre, qu'on ne peut pas massacrer une génération. Alors vous allez me dire, mais au fond, dans l'adoption, oui, dans l'adoption, très bien, mais une adoption qui doit relever d'un véritable amour, quand l'amour est faussé,